Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous avons parlé d'éléments psychologiques dans notre dernière émission autour du stress, puisque c'est le sujet que nous abordons en ce moment. Nous avons indiqué que la démultiplication du stress peut nous faire passer à des stades plus grave, si je puis employer ce mot sans faire peur à quiconque, hein, bien sûr, mais quand on arrive à l'anxiété, voire à la dépression, évidemment, cela nécessite une prise en charge. Nous avons aussi, et vous avez souligné un élément tout à fait important, le fait qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'avoir en tout cas un minimum de maîtrise par rapport aux sources de stress. Donc on va continuer d'aller dans ce sens-là. Mais je voudrais vous demander, au début de cette nouvelle émission, si vous pourriez nous donner des exemples de situations de stress et de réactions au stress. Est-ce qu'il y a des degrés dans le domaine du stress? Je crois que oui, hein. Il me semble que c'est ce que vous nous avez déjà fait comprendre d'ailleurs.
Effectivement, Fabrice, il y a des degrés dans les niveaux de stress, et on parlera d'ailleurs de mesures de stress. Hein. On peut mesurer le stress. Qu'est-ce qu'on mesure? Eh bien, on mesure les efforts d'adaptation que va demander la situation à l'individu. Donc la situation se présente, et on va mesurer les efforts d'adaptation. Et on parlera à ce moment-là de mesures de stress. Alors, quel genre de situation, par exemple? Eh bien, un mariage. C'est une situation exceptionnelle, eh bien, cela va causer du stress. Mais ça peut être aussi des situations plutôt répétées. Un événement dans la journée fait en sorte que ce soit quelque chose de désagréable. Hein. Donc peut-être, je ne sais pas, si on ne s'entend pas très bien avec son voisin de table et que l'on doit aller déjeuner tous les jours avec la même personne à la même table, eh bien, cette situation répétée va se transformer en situation stressante. Puisqu'on est un peu en situation de conflit, on dira. Il peut aussi y avoir des expositions prolongées face aux stresseurs. Là, on pourrait reprendre, par exemple, la réintégration du loup, le fait que le loup reste là. Et donc, c'est une situation qui se prolonge face à ce stress.
Est-ce que tous les individus ont la même réaction face aux sources de stress? Est-ce qu'il y a des mesures différentes? Est-ce que, par conséquent, on peut adapter les résultats, en quelque sorte?
Tout à fait, on va adapter les résultats, j'aime bien cette expression. Nous avons différents profils, hein, ça nous en avons déjà parlé, et selon nos profils, nous allons réagir d'une manière différente au stress. Par exemple, on pourra dire que des personnes qui ont un profil plutôt réfléchi, c'est-à-dire un profil capable de prendre du recul assez aisément, sont mieux équipées pour faire face au stress que des personnes qui sont plutôt dans l'action, dans l'activité, dans la rapidité, dans l'urgence. Nous ne réagissons pas tous de la même manière au stress et nous le gérons pas tous de la même manière.
Oui, ça m'interpelle un petit peu ce que vous dites là, parce que j'avais pour ma part tendance à penser que ceux qui pouvaient méditer sur ce qui leur arrivait, au contraire, augmentaient intérieurement leur stress. Vous dites, vous, que c'est plutôt quand on est dans l'action que là, on a le risque d'être soumis au stress.
C'est ce que je pense, c'est ce que je constate au quotidien, et je pense qu'on peut faire un rapprochement avec la capacité de maîtrise. C'est comme ça que je l'avais interprété. C'est-à-dire que si on prend du recul, on peut peut-être trouver des moyens de faire face au stress, et donc d'avoir le sentiment de maîtriser la situation. Mmh. Si on ne prend pas ce temps de réflexion ou ce temps de recul, eh bien on peut peut-être partir dans une mauvaise gestion ou avoir la perception qu'on ne le gère pas et du coup le stress va générer du stress.
Dans la dernière émission, vous nous aviez donné un exemple très pratique, le simple fait d'aller chez le dentiste et d'avoir le moyen d'indiquer à son dentiste qu'il peut continuer ou qu'il doit s'arrêter, c'est tout de suite très parlant. Alors comme j'aime bien ce genre d'exemple, je vous propose de nous en donner un autre s'il vous plaît.
Alors un autre exemple, écoutez, j'en ai un là. C'est aussi une expérience qui a eu lieu aux États-Unis. Donc, il s'agissait de constituer des binômes, deux personnes, qui allaient partir en voiture ensemble. Et il y avait donc un chauffeur et un passager. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, prendre l'itinéraire qui leur convenait, rouler à la vitesse à laquelle ils souhaitaient rouler. La seule contrainte, c'est qu'ils devaient rouler à peu près 400 km et ne pas s'arrêter. Voilà. Donc,
c'est contraire au conseil de la sécurité routière.
Tout à fait. Mais là, nous étions dans les circonstances d'une expérience et je pense que ça devait être couvert par les assurances. Alors donc, bien sûr, on a toujours mesuré notre stress à l'aide de la mesure du cortisol. Et donc, on a mesuré le stress chez les passagers et on a mesuré le stress chez les conducteurs. Mmh. À votre avis, quelle population présenter plus de stress que l'autre?
Je n'ose pas donner de réponse.
Vous n'osez pas.
C'est risqué.
Tout à fait, je comprends. Eh bien écoutez, ce sont les passagers qui avaient un taux de stress supérieur au conducteur. Mmh. Et cela s'explique toujours par cette notion de maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas le volant, on se sent finalement sous la dépendance du conducteur. S'il se passe quelque chose, on a bien la perception que l'on ne pourra rien faire, puisque nous ne sommes que passagers, et donc le taux de stress augmente.
Voilà. Donc le fait de tenir le volant, c'est comme tenir la barre, quoi.
Tout à fait.
On maîtrise son chemin.
Voilà. Mmh. On décide la vitesse à laquelle on va rouler, le chemin que l'on va prendre. On est là tout à fait prêt à réagir à tout événement qui pourrait arriver. Mmh.
D'ailleurs, on peut l'observer effectivement au quotidien, ce genre de phénomène. Quand arrive quelque chose d'imprévu sur la route, c'est forcément le passager qui réagit plus vivement que celui qui conduit. Parce que celui qui conduit, quelque part, il sait ce qu'il a à faire, là encore.
Voilà. Mmh. Il est dans l'action.
Oui. Alors peut-être encore quelques éléments par rapport aux sources de stress. Qu'est-ce qui est relevé aujourd'hui comme étant des sources de stress importantes?
Alors les sources de stress, c'est bien le bruit. Nous sommes dans une société très très bruyante, de plus en plus bruyante. Le bruit est une source de stress importante. Et je pense que dans les grandes villes, dans les mégapoles, là où il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit, cela va favoriser des réactions au stress. L'alimentation aussi est une source de stress, dans le sens où une mauvaise alimentation, une alimentation trop abondante, va provoquer des réactions dans notre corps, puisque notre corps va être obligé de digérer des substances plus difficiles à digérer qu'à l'habitude.
Voilà. Et là, donc, on est sur un plan purement physique, on ne se rend pas vraiment compte. Enfin, on se rend compte au moment de la digestion, quoi.
Tout à fait. Mmh. Et de notre état à ce moment-là. Donc on est peut-être plus vite fatigué ou plus vite irrité lorsque on digère mal. Ensuite, le manque d'air, le manque d'oxygène. Bien souvent, dans mon travail, lorsque j'anime des séminaires, si nous n'avons pas l'occasion d'avoir des locaux où l'on peut ouvrir la fenêtre ou si nous restons trop longtemps dans le même environnement, eh bien, je peux avoir des stagiaires qui se plaignent de maux de tête, de maux de dos, etc. Ça peut être une réaction à un stress lié au manque d'air, au manque d'aération.
Donc finalement, ce sont des éléments relativement simples à corriger. Bon, le bruit, pas toujours évident selon l'endroit où l'on habite, mais sinon, l'alimentation... maîtriser en partie. Ce que vous venez de dire par rapport au fait d'aérer, quand même, on devrait pouvoir y arriver aussi.
Certaines fois, oui, on peut y arriver. La plupart du temps, on peut y arriver, mais aussi, encore faut-il y penser. Et puis, malgré tout, on peut avoir prendre des habitudes qui ne soient pas les bonnes habitudes par rapport à cette gestion du stress. Ne serait-ce que manger très vite en faisant autre chose. Ce sont des petits événements qui se propagent, mais qui ne favorisent pas la détente et qui vont alimenter des réactions physiologiques dans notre corps, des réactions qui vont faire appel aux hormones dont on a parlé tout à l'heure.
J'ai sous les yeux d'autres éléments qui m'interpellent. La culture de l'urgence. Tiens, le sentiment d'insécurité. Dieu sait s'il est relayé, ce sentiment-là, par les médias, et oserais-je dire les politiques aussi. Ou encore, la culture du changement établie comme un dogme. Waouh. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on a tendance à être porteur, même contre sa propre volonté. C'est-à-dire que, ah oui, le dernier iPhone, pour mentionner une marque, on l'a fait à plusieurs reprises dans cette émission, il faut absolument l'avoir, quoi. Alors que le précédent fonctionne toujours très très bien.
Exactement, il y a la culture de l'urgence, le sentiment d'insécurité, la culture du changement, on est à peu près dans le même domaine et je suis ravie que vous notiez ces éléments. La culture du changement peut inviter la personne à un sentiment d'insécurité par rapport à des désirs, c'est-à-dire que finalement nous n'avons jamais de sentiment de satisfaction. Donc ce sentiment d'insatisfaction va mettre en place des processus pour chercher autre chose ou pour se dire qu'on n'a pas trouvé la voie qu'il nous fallait. La culture du choix aussi, le fait qu'on ait beaucoup de choix va faire en sorte que les jeunes, par exemple, quand ils sont en recherche d'emploi ou en recherche d'orientation, peuvent souvent avoir des sentiments de frustration. Donc la culture du changement va générer un certain nombre de frustrations malgré nous et va faire en sorte que ces situations, on va devoir les gérer comme des situations de stress pour pouvoir se sentir bien.
Alors, on ne va pas apporter dans cette émission d'aujourd'hui une réponse complète, mais est-ce que vous auriez une piste à nous donner pour gérer justement le stress ?
Eh bien, d'abord, vous avez vu qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, hein, revoir un peu notre hygiène de vie par rapport au bruit, à l'alimentation, etc. Et l'une des principales actions pour faire baisser notre taux de stress reste très simplement la respiration. Et cela, on peut le faire partout. On n'a pas besoin de salle, on n'a pas besoin de musique spécifique. Voilà. Donc la respiration est vraiment quelque chose qui peut aider à reprendre, on pourrait dire, de reprendre les pieds sur terre et d'oxygéner notre sang. À ce moment-là, l'adrénaline n'a plus besoin d'être aussi active. Alors, comment respirer? Puisque vous allez me dire, mais respirer, on respire sans vraiment
sans réfléchir,
hein, sans le savoir ou sans le vouloir. Et bien justement, là, il faut vouloir respirer et respirer sur une respiration à 3 temps. Donc, un temps respiration par le ventre, un temps respiration en haut de la cage thoracique et un temps pour l'expiration. Et si vous pratiquez tout simplement cette respiration à 3 temps, vous allez faire baisser votre taux d'adrénaline dans votre corps.
Eh bien, je vais me remettre à respirer, une fois de plus. Christine, je vous remercie beaucoup pour ces réflexions et ces conseils. On se retrouve encore une prochaine fois pour approfondir ce thème de gestion du stress. Merci.
Merci Fabrice, à bientôt.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.